Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clauzier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clauzier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC Story. Débat impossible sur la tenue correcte à l'école, on ne peut pas mesurer la taille d'un t-shirt correct. Alors est-ce qu'il faut tout simplement mettre en place l'uniforme à l'école? C'est notre question jusqu'à 13h.
Oui, et à 13h, on va revenir sur ce rapport de la Cour des comptes. Vous n'allez pas le croire, la Cour des comptes se mêle de sécurité routière et considère d'ailleurs que le tout radar, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions pour lutter contre l'insécurité routière. Bon, je vous fais pas un dessin, il y a un petit débat qui s'annonce, ça va être très très chaud et on a besoin
d'accord avec la Cour des comptes.
Mais oui, bravo, suspense. Un peu de raison dans ce débat.
Mais bien sûr, il faudra qu'on m'explique d'ailleurs en quoi la Cour des comptes a son mot à dire sur la sécurité routière.
Mais bon, comme elle dit le contraire de ce que tu as envie d'entendre.
On va pas faire le débat avant le débat, on vous attend au 32-16.
À 12h50, on va jouer au C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité. À gagner cette semaine, un séjour dans les résidences Noémie, c'est pour 4 personnes pour une semaine. Vous pourrez choisir entre les Pyrénées, les Alpes du Sud, la Savoie ou les Alpes du Nord pour jouer avec nous et gagner votre séjour. Vous envoyez JEU par SMS au 732-16. Le crop top revient sur le devant de la scène. C'est parti pour les nombrils à l'air. Alors, un crop top, c'est un t-shirt coupé qui laisse entrevoir la peau du ventre. C'est à la mode régulièrement. C'était déjà un sujet quand j'avais 14 ans. Et vu que je suis plus trop une jeune fille, ça fait longtemps. Dans un entretien au journal Elle, Emmanuel Macron a estimé que cette tenue n'était pas appropriée pour le cadre scolaire. Voilà ce qu'il a dit. À l'école, je suis plutôt pour une tenue décente exigée, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Tout ce qui vous renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d'exister n'a pas sa place à l'école. Pour Jean-Luc Mélenchon, président du groupe LFI à l'Assemblée nationale, qui a répondu directement en conférence de presse hier au président, on se dirige tout droit vers la police du vêtement.
Alors, il paraît qu'il est contre le crop top. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. On m'a appris ça tout à l'heure. D'abord, je n'ai pas voulu le croire. Oh, sérieusement, j'ai cru que c'était une blague de mon équipe pour rigoler, quoi. Et non, il a réellement dit ça. Alors, maintenant, nous avons deux penseurs de l'habillement féminin, l'ayatollah Khomeini, suivi de l'ayatollah Khamenei, et M. Macron, qui décide quelle est la longueur à partir de laquelle une jeune femme, ou une jeune fille, ou une fillette se comporte d'une manière décente.
Alors, on se souvient qu'en septembre dernier, des adolescentes s'étaient réunies derrière le mouvement lundi 14 septembre et avaient décidé de porter des décolletés pour affirmer leur liberté face aux jugements et aux actes sexistes. Rappelons que chaque établissement a le droit de s'organiser comme il veut face à la tenue des élèves, mais le débat est quand même compliqué pour savoir qu'est-ce qu'une tenue correcte. Alors, notre question, allez hop, uniforme pour tout le monde. Est-ce que c'est ça la solution pour Emmanuel? Toi, tu dis oui.
Oui, moi je dis oui parce qu'on voit bien que ce débat, on ne s'en sortira jamais. Qu'est-ce qu'une tenue correcte? Alors, évidemment, tenue correcte, tenue décente, on voit bien que dans 95% des cas, ça ne posera pas de problème. Mais dans les 5% de cas restants, si dans chaque établissement scolaire, on est obligé de légiférer, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Donc la seule solution pour remédier à ça et bien comprendre qu'effectivement, on ne peut pas s'habiller n'importe comment à l'école, c'est l'uniforme. C'est l'uniforme. L'uniforme, parce que un, ça crée un sentiment d'appartenance à un groupe. La sociabilisation se fait sans tenir compte des barrières sociales, barrières sociales qui sont manifestes avec la façon de s'habiller. C'est un outil anti-exclusion, l'uniforme. C'est un anti-outil exclusion, anti-stigmatisation, et puis ça évite tout ce débat. Je rappelle quand même que dans la majorité des pays du monde, les élèves ont des uniformes et que la France est une exception. Et quand on voit les problèmes que ça pose, franchement, moi je dis l'uniforme, c'est un gage d'efficacité, d'apaisement et de réussite scolaire.
Tu fais pouffer de rire, Laurent Neumann.
Oui. D'abord, je pouffe un peu parce que je crois que c'est la première fois depuis qu'on débat ensemble, ça va bientôt une petite année qu'on débat toi et moi, c'est la première fois que tu défends le principe d'égalité et que je me retrouve face à toi à défendre le principe de liberté.
D'habitude, c'est plutôt l'inverse.
Tout le monde a le droit de changer d'avis.
Il y en a un qui est pour la rigueur et un autre
Tout le monde a le droit de changer d'avis.
Ça, c'est une grille de lecture qui n'a pas bougé de l'année.
J'espérais que sur ce sujet-là, tu serais moins caricatural. Alors, tu viens de dire toi-même pourquoi, au fond, ce que tu proposes ne tient pas. Tu as commencé par ça, d'ailleurs, c'est très étonnant. Dans 99 99% des cas, il n'y a pas de problème.
Non, 80. Non. Allez, je te le fais à 90, 95.
Non, mais arrête.
9 cas sur 10.
Sois sérieux.
Bon, il n'y a pas de problème.
Dans 99% des cas, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, quand il y a un problème, bah, il suffit que le proviseur fasse une remarque à l'élève, et si ça ne suffit pas aux parents de l'élève, pour que tout rentre dans l'ordre. Donc, pour 1% des cas, peut-être 0,5% des cas sur les dizaines et dizaines de milliers d'élèves au collège, au lycée, etc. On va mettre l'uniforme pour 100% des enfants. C'est une blague. Deuxièmement, mais d'où tu sors que l'uniforme supprimerait toute forme de stigmatisation, réduirait toutes les inégalités? Enfin, avant... En France, quand il y avait l'uniforme, ou même seulement la blouse obligatoire pour les enfants, est-ce que tu crois que les hiérarchies sociales étaient abolies à l'école? Mais d'où tu sors ça? Relis toute la littérature française, le cinéma français, plein d'histoires qui contredisent ce que tu viens de dire.
N'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces arguments?
Ah, parce que tu crois que les gosses se foutaient pas sur la gueule à l'école quand il y avait l'uniforme? Tu crois qu'il y avait pas les riches et les pauvres à l'école quand il y avait l'uniforme? Mais c'est une blague. D'où tu sors ça? Et troisième, parce que c'est sans doute l'argument le plus intéressant de tous ceux qui disent uniforme égale rigueur. Est-ce que tu crois sérieusement que lorsque 100% des collégiens et des lycéens de ce pays auront l'uniforme, ils seront du jour au lendemain plus obéissants, plus tolérants, meilleurs élèves? Mais d'où vous sortez ça? Vous faites une vision totalement fantasmée de l'école.
C'est pas l'uniforme qui va résoudre tous tes problèmes, bon Laurent.
Donc,
mais la réalité, c'est que tu dois apprendre aux gamins.
Donc comme ça n'en résout aucun, l'uniforme.
Ça n'en résout pas aucun. C'est que les tenues vestimentaires sont en permanence un sujet de conflit entre les élèves.
Mais c'est faux.
Mais bien sûr que
d'ailleurs,
oui. Mais sinon, tu n'aurais pas ce débat. Dis pas n'importe quoi.
Mais pourquoi on en parle? Parce qu'il y a eu un...
Pourquoi on en parle? Parce que t'as le regard des garçons sur les filles. Parce que t'as les filles qui se comportent comme ça, mais arrête de dire qu'il n'y a pas de sujet.
Non, pardon,
c'est n'importe quoi.
Je suis en train de te dire que ce matin, toi et moi, on en parle pour une seule raison, c'est parce que la question a été posée au président de la République et qu'il a eu le malheur d'y répondre. Mais où est-ce que tu as vu un problème?
Tes
gosses, ils sont à l'école, ils t'ont parlé d'un problème de tenue.
Il répond à une question, il fait pas de loi. Hein.
Laurent, le problème, on l'a déjà traité au mois de septembre. Il y a déjà eu un problème au mois de septembre.
Un problème? Un problème.
Il y a un débat, tu peux
un
pas
problème,
nier.
Un problème, il y a combien
d'années? C'était un débat sur la tenue des filles par rapport aux garçons. C'est pas exactement le même.
Et donc, il y a un débat qui est quand même un débat de fond. Tu peux pas éluder ce débat.
Très bien.
Débat qui consiste à t'expliquer que tu ne peux pas aller à l'école dans n'importe quelle tenue parce que l'école, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un sanctuaire, etc. C'est pas un débat absurde. Mais toi, évidemment, toi, tu laisses faire.
Ce qui est bizarre, c'est que
tu laisses tout le monde faire n'importe quoi.
Tu es plutôt, par exemple, pour la liberté de venir voilée ou avec une kippa dans un endroit public. Et là, tu dis non pour l'école.
Parce que ça n'a strictement rien à
donc
voir.
L'école pour toi n'est pas un espace public comme les autres.
Ah, ça n'a strictement rien à voir. Je dénonce, si tu veux, la vision totalement délirante et dogmatique de la laïcité qui consiste à croire que tout va bien quand personne n'exprime son signe religieux. Moi, je suis pour que tout le monde se sente avant tout citoyen, républicain et français. Voilà. Et qu'après, que tu sois juif, musulman, catholique, que tu viennes, moi je préfère. Alors, je vais te dire, totalement, je préfère parfaitement une école dans laquelle tout le monde serait en uniforme et que ceux qui veulent mettre la kippa mettent la kippa, que ceux qui veulent mettre le voile mettent le voile et que ceux qui veulent arborer une grosse croix arborent une grosse croix, plutôt que le monde d'aujourd'hui sans kippa, sans voile, sans croix et avec des filles et des garçons habillés n'importe comment.
Mais par contre, un petit bout de chair qui serait donné à voir, ce serait anti-républicain. Mais
ça
tient pas la route.
Laurent,
ça tient pas la route.
On va aller au 32-16, tu as tout le temps de t'exprimer. Lisa Marie, bonjour, on peut voter sur les réseaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Faut-il un uniforme à l'école? C'est notre question. Aujourd'hui, vous pouvez nous répondre sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Fabienne qui nous appelle de Groslay dans le Tarn. Bonjour Fabienne.
Oui, bonjour.
Tu es commerciale Fabienne et tu es plutôt côté Laurent Neumann.
Oui, tout à fait d'accord avec Laurent. Effectivement, moi je suis pas trop pour l'uniforme parce que d'abord l'uniformité ne me convient pas. Je trouve que laisser l'enfant à son origine, le laisser choisir la façon dont il va s'habiller, dont il va s'habiller, se mettre les cheveux dans le sens qu'il veut, à l'école comme dans la vie, je pense qu'il y a pas, faut laisser l'enfant le libre choix de l'enfant. C'est pas un petit nombril qui va changer la face du monde. Je pense que les filles entre 12 et 17 ans, parce que je les vois, avec leur petit top qui est très joli, ça n'a rien à voir avec le voile, la kippa. Je suis pas du tout d'accord avec la religion et l'école, c'est pas du tout pareil. Je veux pas. Moi, je mélangerai pas les deux, si vous voulez. Après, dans la rue, la personne qui veut mettre sa kippa ou son voile ou mettre sa croix, peu importe. Hein, il y a pas la religion. C'est chacun fait comme il veut. À l'école, l'uniforme, c'est uniformiser tous les enfants. Et je pense que le libre choix de la personne, déjà à la base, on doit le laisser parler, quoi. Parce que on le brime, en fait. Tout le monde pareil. Qu'est-ce que c'est cette vie dans un monde où tout le monde arrive pareil, habillé pareil, peigné pareil? Enfin, moi, je pense.
Non, mais
que...
surtout, Fabienne, si tu m'autorises, parce que je bois tes paroles, mais surtout, c'est une illusion, c'est un fantasme d'imaginer qu'au prétexte que les enfants auraient tous la même tenue, qu'ils seraient pareil, mais on vient tous avec d'où on vient, avec son cortège, avec son histoire, avec sa culture, avec ses habitudes.
C'est là où tu te trompes totalement.
Ah bon,
c'est là où, et je pense que Fabienne, c'est là où tu te trompes aussi. C'est-à-dire que justement, l'uniforme, ça permet de se libérer de toutes les contraintes de l'apparence pour mettre en valeur toutes les autres différences et toutes les autres qualités. C'est-à-dire que tu as... Attends, me dites pas que tout le monde est pas soumis dans les écoles. C'est-à-dire la pression de l'image, de la mode, etc. Moi, au contraire, je trouve que c'est se libérer de ça pour donner plus de place à la possibilité d'exprimer sa personnalité, qui on est, etc. C'est ce que te montre. Regarde tous les travaux qui ont été faits au Japon, en Angleterre, sur les avantages de l'uniforme. C'est tout ce qui ressort.
Tu sais quoi ?
La socialisation.
Dis tout. Il faut que tu vas me citer Emmanuel. Les pays anglo-saxons, c'est vrai. Les pays asiatiques, c'est vrai.
Les pays d'Amérique latine,
et les Caraïbes,
ça commence à faire beaucoup. Et l'Afrique.
Et donc, il faut qu'on soit uniformément habillés sur l'ensemble de la planète. Tous les enfants habillés pareil.
Mais qu'est-ce que tu réponds à la pression de la mode, Laurent, à la pression de l'achat, de la consommation?
Je vais te répondre. Ça commence pas à l'école, en l'occurrence, ça commence dans la famille. Il y a des enfants qui demandent des pompes à 300 balles, mais il y a des parents qui acceptent ou qui refusent.
Mais tu fais ce que tu veux en dehors de l'école. En dehors de l'école, bien évidemment que tu laisses les gens s'habiller comme ils veulent.
Pour aller à l'école, il y a des enfants.
L'école, c'est un lieu différent.
Non, il y a des enfants qui demandent à leurs parents des vêtements de marque, des signes distinctifs, etc., qui la plupart du temps, d'ailleurs, valent une fortune. Mais pardon, c'est la responsabilité des parents de dire oui ou non, de céder ou de ne pas céder.
Bien sûr que c'est pas la majorité.
Le problème, c'est qu'à l'école, tu n'as pas cette pression, tu n'as pas cette question qui se pose. Excuse-moi.
Oh, j'ai jamais eu de pression. Nous, on s'habillait comme on voulait. Moi, j'ai 60 ans, donc on n'a jamais eu la pression, ni à l'école, ni au lycée. Chacun s'habille comme il veut. On regarde l'autre, oui, certes, des fois, parce qu'il a une paire de chaussures peut-être plus chère que la nôtre. Mais bon, on n'est plus autant des gueux, quoi. Tout le monde ne peut se payer une paire de chaussures maintenant. Il y en a à tous les prix. Je pense pas que les enfants soient à ce niveau. À mon avis, les enfants, ils s'en fichent complètement.
Pas du tout, Fabienne. Et je pense qu'avec
nous,
Laurent...
les adultes qui regardent...
Bah, je sais pas, non, entre Fabienne, filles, tu veux avoir les mêmes pompes.
Fabienne, je peux t'assurer...
Garçons, ça les choque pas. Hein.
Fabienne, je peux t'assurer que, comme Laurent, je pense que vous sous-estimez complètement cette espèce de forme de pression. Je peux t'assurer que quand il y en a un qui a les dernières pompes à la mode, tous les autres, ils veulent qu'un truc, c'est la même chose. Et que effectivement, moi, je pense que vous sous-estimez complètement. Oh. Ah bah, je peux te dire que si. Si vous considérez qu'une paire de chaussures vaut une autre paire de chaussures de n'importe quelle marque, pas du tout.
Évidemment, je comprends, mais je peux pas dire que la généralité des enfants soit de regarder son prochain parce qu'il a un truc plus que l'autre. Espérons-le,
Fabienne, que ce ne soit pas qu'une question de consommation. Merci beaucoup, Fabienne, d'être venue débattre avec nous.
Elle est très bien.
Dans Demain le Chiffre, moi, j'ai jamais eu le droit d'avoir des Air Max Triax et j'en ai énormément souffert. Des Air Max Triax.
Mais il sait même pas ce que c'est.
Mais c'est normal, il n'a pas eu 16 ans en même temps.
Il y a un truc avec des lacets, une semelle, ça s'appelle des chaussures. Bon voilà, et puis t'achètes une paire pour l'année, t'es tranquille.
Et j'en ai jamais eu, j'en ai toujours pas eu. Allez, on va continuer à parler ensemble uniforme. Est-ce que c'est la solution à l'école pour éviter les crop tops, les nombrils à l'air et tout ça? les nombrils à l'air, c'est quand même très dangereux. Il faut vous les cacher. On vous attend au
32-16. Arrête de faire de l'ironie, les gens vont te croire après. Ça va.
On vous attend au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Le débat est impossible sur la tenue correcte à l'école. C'est trop compliqué de savoir la taille du centimètre du t-shirt qui est correct.
Mais nous, on a un débat très apaisé avec Emmanuel. Il dit des bêtises, mais on peut avoir un débat.
Tout à fait. Mais alors, notre question à nous, c'est faut-il un uniforme à l'école ? Emmanuel dit oui, c'est la seule solution pour combattre le règne de l'apparence. Laurent Neumann dit non, arrêtez d'emmerder les jeunes. Oui, il dit des gros mots.
Je peux apporter un autre argument dans le débat ?
Et ensuite, on écoute Marlène.
Il y a quand même une grosse part de misogynie dans ce débat sur la fameuse tenue correcte exigée ou tenue décente. Parce que le problème se pose pour les filles. Il se pose quasiment jamais pour les garçons. Et donc demain, quand tu auras l'uniforme imposé dans ton système à toi, Emmanuel, bah je te fiche mon billet qu'avec la même misogynie, on s'interrogera sur le fait de savoir si les filles doivent absolument porter une jupe ou pas. Ou si les filles à l'école doivent porter un pantalon comme les garçons. Ce sont des débats qui sont infini. On n'arrive jamais à en sortir. La vraie question,
non,
c'est que...
Vrai. C'est sans... toi, c'est tes débats à toi.
Mais pas du tout.
Tes débats à toi. Et puis sur ta fameuse spécialité du et si on va plus loin, etc. C'est-à-dire que tu extrapoles toujours.
Donc
mais
les filles,
totalement... mais l'uniforme, ça règle tout. Mais, t'as un uniforme,
donc,
point barre.
Une jupe pour les filles
mais
ou pas?
Mais il n'y a pas de sujet.
Mais si, il y a
mais
un sujet.
Mais par exemple, mais tout le monde aura la même.
La même jupe?
Mais oui, tout le monde aura la même.
Est-ce que les filles auront une jupe?
Mais oui, si tu veux ou pas. Tu peux mettre une jupe, un pantalon dans l'uniforme.
Oui ou non?
Mais les deux.
Elles auront les deux.
Elles peuvent mettre un pantalon, elles peuvent mettre une jupe. Les fliquettes, elles ont bien une jupe ou un pantalon, c'est comme elles veulent. C'est plus, tout est possible. Voilà, c'est tout. Mais c'est beaucoup plus simple. Et toutes les discussions que tu évoques, s'il y a l'uniforme, elles n'ont pas lieu. Encore une fois, c'est le meilleur moyen
on
d'avoir
pas beaucoup d'officiers de police, parce que moi j'aime pas trop le mot fliquette.
Et une je veux dire des officiers des agents de police.
On n'en voit pas beaucoup.
Tu as une vision un peu militaire de l'école.
On va écouter sur la question de la misogynie. Marlène Schiappa a répondu ce matin avec Apolline de Malherbe, les ministres en charge de la citoyenneté. On écoute.
Le président de la République appelle à une tenue décente en cours et il précise pour les filles et pour les garçons. Et moi, je crois que c'est ça qui est fondamental. Parce que pourquoi ces jeunes ont décidé de lancer ce mouvement ? C'est parce qu'il y avait une discrimination vis-à-vis des filles. Vous avez encore des établissements dans lesquels il y a un règlement qui dit que les filles ne doivent pas venir en short, par exemple, mais les garçons ont le droit de le faire. Que les filles ne doivent pas être en décolleté, mais il n'y a rien de précisé pour les garçons. Comme si tous les garçons étaient affolés par le décolleté d'une jeune fille, mais qu'aucune fille ne réagissait jamais à une tenue sexy pour un jeune garçon. Et donc, comme le président répond que pour les filles comme pour les garçons, pour lui, doit y avoir une égalité, sa réponse me convient très bien.
Voilà, notre question à nous, est-ce qu'il faut établir, ce qu'il n'y a jamais eu. Il y a eu des uniformes en France à un moment, non? Dans certaines écoles privées.
Privées, il y en a eu par le passé. Il y en a parfois dans nos outre-mer. Dans certaines écoles, oui, bien sûr.
Lisa Marie, quelle est la première tendance ?
Vous avez un avis très tranché sur la question. L'uniforme à l'école, vous êtes 82% à répondre oui. Ah. Oui, vous êtes favorable à retour ou à l'uniforme de l'école.
C'est intéressant.
Donc, comment on lui claque le beignet ?
100% des Français sont d'accord avec le regretté Georges Pompidou qui disait arrêtez d'emmerder les Français.
Mais on n'emmerde pas
les
Français.
Tout le monde est d'accord pour continuer d'emmerder les jeunes.
C'est la solution de la simplicité. Bien tous les matins, t'as pas à te demander comment tu t'habilles pour aller à l'école. T'es pas dans la course aux apparences. Enfin, tout ça n'a que des avantages. Que des avantages.
Vous-même, vous avez un uniforme, là, tous les deux. Vous êtes habillés pareil tous les jours.
Bah oui, on a un costume. On a moins de possibilités d'avoir des tenues variées que les femmes.
Tu pourrais. On est avec Jean-Rémy Girard, président du SNACL. C'est le syndicat national des lycées et des collèges. Bonjour Jean-Rémy Girard.
Bonjour.
On voit revenir le crop top sur le devant de la scène. C'était déjà le sujet à la rentrée de septembre. Est-ce que c'est un vrai sujet, le crop top ? Est-ce qu'il y a des conflits dans beaucoup, beaucoup de collèges ? On disait en fait très peu tout à l'heure.
Oui, non, ce n'est pas un vrai sujet. Globalement, la question de la tenue vestimentaire des élèves, ça occupe très, très peu les équipes pédagogiques, les chefs d'établissement, etc. Il peut arriver ponctuellement qu'il y ait un souci, qu'il y ait une question qui se pose. Et généralement, dans ces cas-là, ça peut même parfois prendre des proportions médiatiques. Mais globalement, nous, les enseignants, les personnels de l'éducation nationale, on est plus intéressés par le fait que les élèves travaillent à l'école, apprennent leurs leçons et qu'on puisse bosser dans de bonnes conditions, plutôt que de savoir si la jupe est un centimètre trop long, un centimètre trop court, ou si tel vêtement ou tel autre vêtement, ça ne va pas. Il y a un certain nombre de choses. On parle de la question de la tenue correcte, c'est très compliqué à définir une tenue correcte. Il y a quelque chose qui font consensus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette cette époque où, chez les garçons pour le coup, il y avait cette tendance à porter le pantalon à peu près au niveau des genoux et à avoir le sous-vêtement complètement apparent. Ça, à peu près tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait lutter contre. Voilà. Ça faisait partie des exemples de ce qu'est une tenue correcte ou incorrecte.
Donc là, le simple remonte ton pantalon, ça suffisait en fait. Le simple remonte ton pantalon,
ça suffisait. C'était ça vraiment la grande question. Et j'ai envie de dire, j'ai entendu ce que disait Marlène Schiappa. Il y a un point qui est vraiment très important quand on établit un règlement intérieur en matière de tenue, parce que généralement c'est dans le règlement intérieur. C'est très important de faire en sorte que, effectivement, les filles et les garçons soient traités de la même façon. Parce que sinon, c'est incompréhensible. Et de ce point de vue-là, il y a pu y avoir, il y en a moins hein, maintenant, mais il y a pu y avoir un certain nombre de règlements qui, effectivement, faisaient des distinctions par rapport au sexe qui n'étaient pas toujours très pertinentes.
Et j'ajoute que l'école, quand même, c'est un lieu où on est censé apprendre à vivre avec les autres et avec donc leurs différences. Donc l'idée qui consiste à dire on va commencer par abolir les différences pour que tout le monde ait le même aspect, je suis pas sûr que ce soit la façon la plus pédagogique d'apprendre le vivre ensemble, mais c'est un avis personnel.
L'uniforme c'est un fantasme en fait. C'est très très beau dans l'idée et je comprends très bien hein, cette idée, j'allais dire un peu rêvée de on aurait l'uniforme, ça abolirait les différences sociales, on verrait plus qu'il y a des riches et qu'il y a des pauvres. Alors en fait, on le verrait à partir du moment où ils sortent un cahier, une trousse où ils racontent leurs dernières vacances hein, de toute façon, mais je vois très bien cette idée-là, c'est très beau. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Hein.
Non mais attendez,
c'est compliqué. Il y en a qui ont essayé dans des toutes petites communes. C'est vraiment difficile. Imaginez dans un lycée, voilà comment on s'en sortirait. Et puis je vous assure qu'il y aurait même des manières de porter l'uniforme et d'arranger le vêtement. Ça serait pas les mêmes de l'un à l'autre quand même. Hein. On retrouverait sans aucun doute une individualité. Je crois qu'il faut. Et je comprends hein, que la majorité de vos auditeurs soient pour, c'est assez logique. Il y a vraiment cette idée, c'est l'école de la République, c'est bien d'avoir quelque chose qui soit la même chose pour tout le monde. Et moi, je partage hein, cette idée-là de base. Ensuite, je suis professeur et j'enseigne au quotidien depuis 15 ans. Je vous dis, l'uniforme, ça changerait en vrai strictement rien.
Jean-Rémy, c'est tellement compliqué à mettre en place que la majorité et de très loin des élèves dans le monde portent l'uniforme. En Asie, en Afrique, en Amérique latine, on peut même considérer que la France est quasiment une exception. Donc c'est pas tellement compliqué de mettre en place un uniforme.
Alors, c'est plus compliqué quand c'est pas justement une habitude du pays hein, en fait. Et de ce point de vue-là. En France, il y a eu des blouses à l'école primaire à une période, mais en fait, à part effectivement dans certains endroits en Outre-mer, et encore, c'est très loin d'être le cas partout, il n'y a pas forcément cette tradition et cette habitude de l'uniforme. Donc, il faudrait probablement, effectivement, mettre tout ça en place, il faudrait savoir qui le paye, faudrait organiser ça, faudrait que les collectivités locales s'en chargent, chacune dans son coin. Alors nous, on voit déjà, c'est très compliqué de faire rénover un établissement ou d'avoir du matériel. Moi, je vous assure que tout l'argent qu'on est prêt à mettre dans les uniformes, moi, je vous trouve des tas d'endroits où il sera très, très utile pour les apprentissages des élèves.
Ah oui, parce que c'est vrai ça, Emmanuel, on n'a pas posé
qui
la question.
L'uniforme
qui paye?
Ben, l'uniforme, je peux t'assurer que si tu fais acheter aux parents ne serait-ce que deux uniformes chaque année pour aller à l'école, ça leur coûtera beaucoup moins cher que tout ce qu'ils sont obligés d'acheter pour équiper leurs enfants, pour qu'ils soient pas ridicules dans la cour d'école par rapport à leurs copains.
C'est absolument faux.
Donc c'est pas faux.
C'est absolument
Et puis deuxième chose.
C'est tellement faux ce que tu viens de dire.
C'est pas
que
faux du tout. Mais Laurent, c'est arrête tes bêtises. Ça coûte 300 balles, une paire de pompes. Elle te l'a expliqué, Laure. Les uniformes, ça coûte rien. On te les facture 100 francs.
Sans écus.
Ce que tu viens de dire, je vais aller au bout de ma phrase. Ce que tu viens de dire est tellement faux que les rares communes qui ont voulu aller vers l'uniforme, ça a suscité des débats interminables pour savoir qui allait prendre en charge ce que 100% des familles considèrent comme un surcoût. Parce que par ailleurs, t'as tes vêtements pour tous les jours, t'as tes vêtements pour aller au sport, t'as tes vêtements pour aller à la piscine, t'as tes vêtements pour aller
passer les week-ends.
Mais la semaine, c'est un vêtement supplémentaire.
Je
pense que c'est un vêtement à la place d'eux, mais pas du tout. C'est un vêtement.
Ce qui me fascine quand même, c'est qu'on est dans le pays dans lequel les inégalités sociales à l'école sont le plus reproduites. La France est le pays dans lequel les inégalités sociales sont le moins corrigées à l'école. Dès qu'on parle du moindre sujet susceptible de corriger les inégalités sociales, de les rendre moins apparentes, de rendre la scolarité plus cool, etc., d'insister davantage sur l'apprentissage. Non, alors ça non, c'est pas Emmanuel, possible, on atteinte aux libertés.
Emmanuel,
d'accord.
Emmanuel,
au 19e siècle, c'est pas plutôt de
au 19e
siècle. Mais bon.
Oui, il faut plutôt améliorer les conditions d'enseignement.
Bah oui,
en fait.
Évidemment.
C'est probablement ça qui peut régler un certain nombre de problèmes d'inégalité sociale et d'inégalité scolaire.
Bien sûr.
C'est pas forcément de changer de vêtements. Mais une fois encore, mais je comprends très très bien cette. Enfin, voilà, elle est logique. C'est logique d'avoir cette idée-là. Je pense pas que ça changerait fondamentalement le fonctionnement du système scolaire. C'est plutôt ça, c'est très pragmatique.
Je te le redis, Emmanuel, pardon, au 19e siècle où l'uniforme était assez courant dans la plupart des écoles, d'accord, où as-tu vu que ça avait aboli les inégalités sociales à l'école? D'où tu sors ça? Voilà.
Mais Laurent,
d'où tu...
Alors, on est avec Alexandre qui, lui, a porté l'uniforme à l'école, qui va nous raconter. Alexandre, il nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Alexandre.
Ouais, bonjour.
Toi, t'es ambulancier, tu as fait ton lycée où?
Au Japon.
Ah oui, et là-bas, portais l'uniforme?
Kamakura, c'est ça, au lycée Kamakura.
Et tu l'as bien vécu? T'as trouvé ça bien?
Ah, mais c'était très très bien. Déjà, à mon arrivée, donc, on m'a fourni déjà 3 uniformes. Un
d'accord.
pour l'été, un pour l'hiver et un pour le printemps. On était tous égalitaires, c'est ça. Et puis, c'est que surtout, ça nous empêchait de faire des bêtises. Quand on allait en ville, chaque école a un dress code obligatoire. Et quand on allait en ville, si on faisait une bêtise, on était vite retrouvés. Parce qu'on savait dans quel lycée on venait.
Ah ouais.
Déjà, ça nous empêchait de faire des bêtises.
Ah, vous auriez pu vous changer.
Ah non, il y en a qu'un. Et non, c'est obligatoire, on était lycéen.
Mais après, quand tu sors, je veux dire, en fait, tu portes pas ton uniforme tout le temps.
Ah ben, on portait l'uniforme du matin jusqu'au soir. À part les week-ends, où on n'avait pas école. Mais sinon, toute la semaine, c'était l'uniforme. Et les filles, c'était la même couleur. Hein. Il y avait les jupes, tout ça. Après, chaque personne avait une façon différente de porter l'uniforme, certes. Mais on était tous habillés pareil. On était tous habillés pareil. On avait les wabaki, on avait tout le monde. C'était tout le monde était pareil.
Et quand t'es rentré en France, t'as été déçu de quitter l'uniforme?
Ah oui. Parce qu'on sentait une certaine prestance quand même quand on l'avait. Pour moi qui étais déjà étranger, j'étais fier d'être dans ce lycée-là, j'étais fier de le porter, j'étais fier de représenter mon école quand il y avait l'association interlycée, tout ça, c'était très très intéressant et surtout une très grande fierté. Mais après
Alexandre, je peux te poser une question parce que je sais pas la manière dont ça fonctionne au Japon, mais il y avait l'uniforme pour les élèves. Est-ce que une forme d'uniforme était imposée aussi aux profs?
Ah ben oui. Ah ben ils pouvaient pas venir en non, c'était tailleur pour les femmes. Et le costume pour les hommes.
Il y a le sentiment d'appartenance à l'école qui est important.
Oui, mais c'est très important. Ça voudrait donc dire que pour que ce soit vraiment égalitaire, que les élèves, si on leur impose un uniforme, voient des profs qui ont aussi un uniforme. On peut poser la question à Jean-Rémy Girard. Est-ce que les profs seraient d'accord pour porter un uniforme?
Mais bien sûr.
J'ai des doutes que toutes mes collègues souhaitent venir en tailleur du jour au lendemain. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a un vrai débat de fond là-dessus.
Ah oui.
Je crois que c'est effectivement la place de l'école, le rôle de l'école et l'image de l'école dans la société. Et en fait, je pense que dans ces cas-là, l'uniforme, c'est pas le point de départ. C'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de faire, de dire on va mettre l'uniforme et d'un seul coup, il y aura un sentiment d'appartenance, il y aura une égalité. Ça va pas marcher comme ça. Je crois que votre auditeur me dira si je me trompe. Je crois qu'au Japon, l'image qu'on a de l'école est beaucoup plus positive, et j'allais presque dire sérieuse, que l'image qu'on en a en France, et que le respect dû à l'enseignant, etc., c'est des choses qui sont probablement beaucoup plus fortes
mais
là-bas
tout est lié,
que
mais
malheureusement
tout est lié.
Ce que l'on a ici.
Mais tout est lié.
Et je ne pense pas que c'est parce que Madame Machin va mettre un tailleur demain, ou que moi je vais arriver avec une cravate, que le respect va complètement changer. D'ailleurs, il y a des collègues qui sont en cravate, ils sont parfois aussi bordélisés que ceux qui n'en ont pas. Mais de ce point de vue-là, je crois que c'est plutôt redorer le blason de l'école, déjà, commencer par ça, commencer par le fait que les écoles soient des lieux agréables, soient des lieux où, effectivement, on travaille dans des conditions correctes, avec aussi des sanctions qui sont prises quand ça se passe pas bien, qu'à un moment, le professeur se retrouve pas au milieu de tout ça à se faire taper dessus par tout le monde. Je suis pas sûr que ça se passe forcément toujours comme ça au Japon. Voilà, je crois déjà que c'est ça, en fait, qui changerait. Peut-être qu'à ce moment-là, on se dirait, bah tiens, on va pouvoir mettre un uniforme en même temps parce qu'on sera déjà
fier. Il y a plein d'autres choses à faire.
Mais c'est pas
avant
l'uniforme qui va partir de l'école.
Merci beaucoup, Jean-Rémy Girard, d'avoir été avec nous, président du SNAC, le syndicat national des lycées et des collèges. Un grand merci à Alexandre qui était au 32-16.
Très
et ici, il y a des gens avec cravate et des gens sans cravate. Hein. Laurent, tu ne portes pas de cravate, Emmanuel, et je vous respecte tous les deux à la même hauteur.
Est-ce qu'on est à égalité?
Vous êtes très différents, hein. On ressent la différence, mais vous êtes tous les deux si brillants. On vous attend au 32-16 sur RMC. On revient tout de suite.
Tu refais de l'ironie.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, on se retrouve ensemble, on est ensemble jusqu'à 14h, on parle de la tenue correcte à l'école. Faut-il un uniforme ou pas pour Emmanuel Le Chypre? C'est oui, c'est la seule solution pour combattre le règne de l'apparence. Pour Laurent Neumann, non, arrêtez d'emmerder les jeunes. Je déteste dire des gros mots et tu me le
fais
dire à ma à ta
mais
place.
Fais
c'est
comme
terrible.
Moi, tu dis le président Pompidou, à son âme, disait arrêtez d'emmerder les Français. Et moi, je dis arrêtez d'emmerder les jeunes.
Tu te sers de moi et de Pompidou, c'est ce qu'on
non, mais ça entretient cette ambiance de relâchement, de laxisme généralisé.
Bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
C'est ça, j'étais... l'école, avec on y va tous, avec des élèves habillés n'importe comment, des profs qui ressemblent à des géos du Club Med.
Oh là là, des cheveux longs.
Non, mais je pense que vous vous trompez quand vous dites je ne partage pas du tout votre analyse qui consiste à dire ok, l'uniforme c'est bien, mais c'est l'aboutissement du processus qui aura consisté, j'y ai arrivé, à rétablir l'autorité et le prestige de l'école, etc.
Des profs,
moi je pense.
D'abord rétablir l'autorité des profs.
Moi je pense que ça y contribue.
Bah
je
oui.
pense que dans un uniforme, Laurent, tu ne t'attaques pas à un prof parce que tu es imprégné du respect d'une institution quand tu as un uniforme et tu ne t'attaques pas à tes voisins, tu ne t'attaques pas à tes camarades, tu ne t'attaques pas au prof quand tu es dans un uniforme. L'habit fait le moine.
C'est bien ce que je dis, tu fantasmes totalement l'uniforme. Bah,
qu'est-ce que nous a dit notre camarade
il a
qui
dit
nous
ça.
A appelé du qui
oui,
a été
Alexandre,
à l'école au Japon.
Oui, mais au Japon.
Mais demande-lui.
Mais au Japon, l'autorité des profs n'est pas remise en cause.
Oui,
les moyens consacrés
Laurent,
à l'école n'ont rien à voir.
C'est là où on n'est pas d'accord.
Les locaux des écoles n'ont rien à voir avec les nôtres. Tu peux prendre tous les sujets.
C'est là où
l'uniforme n'est que l'aboutissement de tout ça.
Ça fait partie intégrante du processus de sacralisation et de respect de l'école. La tenue vestimentaire, ça fait partie du respect des institutions.
On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
On est avec Jonathan, qui est sapeur-pompier, qui nous appelle de hier. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Toi, tu voulais réagir sur la tenue vestimentaire. Tu as l'impression qu'on se décharge trop sur l'école.
Bien sûr. Alors pour moi, Emmanuel, c'est toi qui te trompes totalement d'analyse. Parce que aujourd'hui,
si même les sapeurs-pompiers me lâchent, alors.
Non, mais parce que pour moi, aujourd'hui, l'école, c'est un lieu d'instruction. C'est pas un lieu d'éducation. Le lieu l'éducation appartient aux parents. Et pour moi, les parents se déchargent encore une fois sur l'école. Les parents,
c'est
de dire aux élèves, à leurs enfants, tu dois t'habiller comme ci, comme ça, parce que tu vas à l'école, et à l'école, tu vas pas la fête à la saucisse, quoi. Tu peux pas t'habiller n'importe comment.
Exactement.
Pour moi, c'est aux parents. Quand on inscrit son gamin au foot, quand on inscrit sa fille à l'équitation, on va lui acheter une tenue vestimentaire adaptée. On va pas aller faire d'équitation claquettes, parce que c'est un peu plus mode que des bottines d'équitation. C'est exactement la même chose. Tu vas à l'école, ben tu mets ça. Je vais être un petit peu flic sur les bords. Avant de partir, un petit check. Oh, ta robe, elle est un peu courte. Tu vas pas aller à l'école comme ça. Mon garçon, tu vas pas à l'école en claquettes. L'école, c'est pas le Club Med. Tu mets des chaussures adaptées.
Alors moi, je vais te dire, je vote Jonathan
mais tout de suite.
Il a résumé exactement ce que je pense.
Alors les amis, c'est marrant parce que moi, je pense que c'est vous qui fantasmez le rôle des parents, etc.
C'est ce que tu fais avec tes enfants.
Mais Laurent, c'est la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas ces codes-là, qui n'ont pas ces notions-là, et qui laissent leurs enfants s'habiller n'importe comment pour aller à l'école.
Est-ce que c'est à l'école de régler ce problème-là ? Les parents, ils doivent s'appuyer sur autre chose que l'école. L'école, ils sont pas là pour contrôler tout ça. L'école, ils sont là pour instruire les enfants et leur donner les meilleures armes pour réussir dans la vie.
Et d'ailleurs, Emmanuel, fais comme si 100% des enfants venaient à l'école dans des tenues inappropriées.
Mais bien sûr que non.
Bah si.
Bien sûr que
si
non.
Si t'imposes uniforme à 100% des collégiens et des lycéens de ce pays, c'est que tu considères qu'il y a un problème vestimentaire dans ce pays. Mais il y en a pas. Il y en a pas, c'est un truc rêvé, fantasmé. C'est-à-dire qu'on met un coup de loupe sur un truc à un moment donné, tout à coup ça enflamme les réseaux sociaux et ça devient le sujet majeur. Là c'est typique, le président de la République est interrogé sur un sujet de société et il répond, et d'ailleurs très honnêtement ce qu'il répond, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Il dit juste qu'il faut une tenue décente quand on va à l'école, ce qu'il a dit est juste écrit dans toutes les chartes de bonne conduite à l'école.
Oui, enfin, sauf
voilà, donc il a rien dit d'extraordinaire.
Chaque établissement fixe ses propres règles.
Mais c'est les mêmes.
Tu le sais, non.
Tenue, mais si, tenue décente, mais bien
mais
sûr.
Tu vois bien que le, encore une fois, même on te l'a dit tout à l'heure, la définition est très compliquée, très compliquée. Alors moi, je suis d'accord, je veux bien, hein, encore une fois, incriminer les parents, pour le coup. Et c'est vrai que c'est pas à l'école de tout faire. Mais il y a un message, un signal que peut envoyer l'école, au moins, que on ne va pas, effectivement.
Mais regarde la guerre aux casquettes. Alors, tu pourrais dire à ton enfant, pas de casquette pour aller à l'école. Tu te retrouves avec le directeur d'école devant la porte, enlève ta casquette. Enfin, voilà. C'est lourd.
Moi, ma mère, quand je rentrais chez moi, elle me faisait enlever ma casquette. Et c'était normal. Et j'ai pris ses codes. Et je vais même pousser le débat un peu plus loin, par rapport aux inégalités sociales. Moi, ma mère ne pouvait pas se permettre de m'acheter des pompes que je voulais parce que c'était pompes ultra chères. Ouais. Ben, ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me disait, t'as tant de budget, c'est toi qui fais la rallonge. Et si tu veux faire la rallonge, tu vas trouver des petits boulots. Et c'est ce que je faisais. Et j'en suis très heureux. Et j'en suis très heureux parce que encore une fois, c'est une éducation. Ça nous apprend la valeur de l'argent. Parce que ben on sait qu'il faut en travailler pour en gagner un petit peu. Et après, on se paye les choses qu'on veut.
Mais moi, quand j'avais 14 ans, je pensais vraiment que j'étais exclue parce que j'avais pas les bonnes chaussures. Bon, après, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Mais
t'étais malheureuse quand même.
Bah,
et ça a nuit à ton apprentissage.
Non, quand même pas.
Pauvre petit enfant.
La pauvre, elle se sentait exclue à l'école.
Mais évidemment,
elle se sentait exclue à l'école.
Aucune frustration pour les enfants, c'est très important. Faut pas que les enfants soient frustrés.
Mais non,
j'ai demandé à ma mère pour Noël de m'acheter quand même les chaussures que je voulais à 14 ans, parce que j'ai quand même beaucoup souffert. Merci beaucoup, Jonathan, d'être venu débattre avec nous dans Neumann Le Chiffre. On est avec Stéphane qui nous appelle de Mont-de-Marsan, qui est entrepreneur. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Tu es pour l'uniforme.
Salut Stéphane.
Oui, moi je suis entièrement d'accord avec Emmanuel Le Chiffre.
Ah, merci.
Tu voudrais une tenue plus que correcte, vraiment l'uniforme?
Alors en fait, je pars d'un principe qui est simple. Et qui nous a imposé, malgré notre volonté, quand on va dans une discothèque, quand on va dans des endroits comme le casino, on nous impose une tenue.
Mais à l'école aussi, hein.
On ne peut pas venir habiller,
non mais attends, à l'école aussi, Stéphane, pardon, je t'interromps, à l'école aussi.
Mais non, de fait, non.
Alors, à l'école, non, je ne suis pas entièrement d'accord, parce que moi, j'ai deux enfants qui ont 7 et 11 ans. Je vois des enfants venir à l'école dans des tenues. C'est même pas une question de décence, en fait, mais ça va trop loin.
Mais c'est-à-dire?
Alors que ce soit les mini-shirts où on aperçoit les fesses pour les filles, ça va être les garçons qui vont être déjà à 7 ans avec du Calvin Klein, de l'Armani, des marques hyper chères. Moi, je pense que justement, l'école, c'est un endroit où ça doit être neutre.
L'école.
Jusqu'au lycée. Et on est là pour apprendre. On n'est pas là pour montrer notre rang social. Donc, je pense que pour moi, honnêtement, on doit imposer pas une tenue correcte exigée, mais un uniforme, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et qu'il n'y ait plus justement ce problème de classe sociale qui se voit dans l'école.
Mais je redis, c'est pas parce que vous vous imposez l'uniforme à tous les élèves des collèges et des lycées que les classes sociales disparaissent à l'école. C'est pas vrai.
Laurent, ne demande pas à cette mesure de faire ce qu'elle ne peut pas faire.
Mais c'est vous qui utilisez cet argument pour le justifier, c'est pas moi.
Mais pas pour gommer toutes les inégalités sociales. Chacun rentre dans sa famille le soir, riche ou pauvre, bien évidemment.
Donc tu n'as gommé que l'inégalité vestimentaire.
Mais elle est fondamentale, elle est obsessionnelle à l'école.
Ah bon?
Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous dans Neumann Le Chiffre. Quel est le résultat définitif, Lisa Marie?
Vous êtes finalement 70% favorable à l'uniforme à l'école.
Alors attends, il faut relancer le même sondage et demander uniquement aux moins de 18 ans de donner leur avis.
Ah bah oui, parce que c'est eux qui décident maintenant, bien sûr.
Dans deux ou trois ans.
C'est eux qui décident.
On va jouer au C'est quoi ça?
RMC Neumann Le Chiffre.
Le C'est quoi ça?
Et on joue pour gagner une semaine de vacances dans les appartements Noémie. Vous pouvez choisir dans plusieurs résidences de montagne où vous voulez partir avec trois personnes, puisque c'est pour quatre personnes au total. On joue aujourd'hui avec Jean-Marc et Anthony. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Jean-Marc, tu es agent de maîtrise. Tu nous appelles de Gironde. Est-ce que tu veux jouer avec Emmanuel ou avec Laurent?
Emmanuel.
Salut Jean-Marc.
Alors, Jean-Marc, Emmanuel, Anthony, bonjour, tu es chauffeur poids lourd, tu nous appelles du Val d'Oise et tu hérites donc de Laurent.
Salut Anthony.
Salut Laurent.
Ah, je suis content de jouer avec toi, on va faire le maximum.
Anthony et Jean-Marc, tu as gagné tous les C'est quoi ça de la semaine, Laurent ?
Non, pas hier.
Non, pas hier.
Mais si, j'ai gagné hier.
Non, c'est moi qui ai gagné hier.
Pas du tout.
D'accord, bon, ça commence très très bien.
Tu peux pas mentir comme ça.
Pas du tout.
Et quant à moi, je me souviens plus, je suis comme un poisson rouge dans un bateau.
4 à 3 et c'est mon candidat qui a gagné sur le fil la question finale. Je suis désolé.
Ah oui, mais grâce à lui alors.
On peut jouer aujourd'hui ou
c'est
on
lui
fait
qui a été
le
nul
match
hier.
D'hier. C'est bon, on peut jouer.
Vas-y, attends.
Question...
C'est comme sur l'uniforme, tu dis n'importe quoi en fait.
Question entre Jean-Marc et Anthony. On buzz avec son prénom hein, avant de donner sa réponse. Quelle équipe affronte l'Espagne ce soir en quart de finale ? Non, je crois que c'est Anthony,
non, c'est Anthony
d'abord.
Ouais.
C'est moi, la Suisse.
Ouais,
Anthony, la Suisse, premier point.
C'est à 18h, je te l'annonce.
Anthony, deuxième question entre Laurent et Emmanuel. Qui a averti hier qu'il y aura une nouvelle vague dans la région européenne, sauf Laurent. Si nous restons disciplinés? Laurent.
Laurent, l'OMS, le patron de l'OMS.
Franchement, c'était facile. Question entre Jean-Marc et Anthony. Qui est le garde des Sceaux de l'actuel gouvernement?
Dupond-Moretti. Jean-Marc Dupond-Moretti.
C'est Jean-Marc qui a parlé en premier. Oui, Jean-Marc, premier
Bravo,
point.
Jean-Marc.
Pour toi, question entre Laurent et Emmanuel. Quel parti politique se réunit à Perpignan?
Laurent. Le Rassemblement National.
Trop facile avec la ville de Perpignan. 3 points pour Laurent. Il se réunit pour un congrès à partir de demain, après sa débâcle régionale. Question entre Jean-Marc et Anthony. À combien de jours est passé le congé paternité hier?
Anthony.
Oui.
28.
Anthony, oh, bravo Anthony.
Trop fort, Anthony.
Il est déjà à 4 points à 1.
Je crois qu'on est en train d'écraser le match.
Ça n'est pas fini. Question entre Laurent et Emmanuel. Il a été vendu 5,4 millions de dollars.
Manu. C'est le code générique d'Internet qui a été vendu. C'est nouveau, c'est les pièces de collection numérique.
Mais j'ai pas compris.
Le premier programme
c'est
d'Internet.
Le code source du web.
Le code source d'Internet a été vendu aux enchères comme une œuvre d'art.
Mais qui l'a vendu?
Le web.
c'est une société informatique britannique qui l'a racheté, je crois. 5,4.
Mais qui l'a vendu?
Je ne sais plus qui l'a vendu.
Mais 5,4 millions de dollars.
À qui a été
dollars.
L'argent, c'est ça qui m'intéresse.
Eh bien, on ne sait pas.
Non,
ça serait une bonne question pour lundi. C'était pas la question. On est à 4 points pour Anthony et à 1 point.
Deux points pour Jean-Marc.
Je suis obligé de suivre.
Question entre Jean-Marc et Anthony. Ils ont dévoilé hier à Londres une statue de leur mère. De qui s'agit-il?
Diana. Jean-Marc.
Alors, Jean-Marc.
Les Didi.
Oui, mais eux, c'est qui?
Ses enfants.
Oui, c'est ça.
Mais c'est qui?
William et Harry.
Oui, c'est ça. On est à 4 points et pour Anthony et 3 points pour Jean-Marc. C'est donc Anthony qui gagne le C'est quoi ça, son séjour.
Eh bien, mon petit Emmanuel, je t'annonce que j'ai fait un petit grand chelem cette semaine.
Un petit grand chelem.
Tes candidats ont fait le grand chelem parce que si on reprenait nos confrontations bilatérales, ça serait pas la même chanson.
Oh là là, mais c'est il a zéro humilité, ce garçon. Il veut pas
reconnaître sa défaite. Non, mais c'est à toi d'en avoir un peu.
C'est incroyable.
Eh bien, c'est
salut
toi
Anthony,
qui gagne
ta
semaine
bravo
de vacances
Anthony.
Dans les appartements.
Désolé, Jean-Marc.
Noémis.
C'est pas grave.
Neumann Le Chypre sur RMC avec les résidences Noémis. Dans les Pyrénées, Alpes du Sud, Savoie ou Alpes du Nord, profitez de séjours au meilleur prix, tout confort, pour des escapades zen ou des parenthèses énergiques.
Dans un instant, restez avec nous sur RMC Story. On va parler des radars. Le nombre de morts sur les routes ne baisse plus. La Cour des comptes considère que les radars sont arrivés à un plafond. Ça n'a plus d'utilité. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de garder les radars? Est-ce qu'ils sont encore la solution? Pour Laurent, c'est oui. Pour Emmanuel, c'est non. On vous attend au 32-16. Je rappelle que les radars sont un des sujets préférés d'Emmanuel et de Laurent avec Amazon. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre. RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Closier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver et on va débattre. Et oui, je peux vous dire que même ça va débattre sévèrement. C'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC Story. Le nombre de morts sur les routes ne baisse pas. Alors que faire? Les radars sont-ils encore la solution? C'est notre question jusqu'à 14h.
Oui, et tu vas nous parler des notaires après.
Oui, c'est les notaires à 13h50. Et on est vendredi absolument, ils répondent à toutes vos questions. Aujourd'hui, c'est Boris Vienne qui répondra à la question de Clotilde qui nous dit « Mon conjoint et moi sommes paxés depuis 4 ans, on veut se marier, est-ce qu'il faut qu'on passe obligatoirement chez le notaire ?» Ça sera tout à l'heure. Mais avant, on va parler sécurité routière. L'efficacité des politiques de sécurité routière en France a atteint depuis 2013 un plateau. C'est la Cour des comptes qui nous le dit. La mortalité routière, grande cause nationale depuis 99, a drastiquement chuté en un demi-siècle sur les routes de France. On est passé de 18 000 morts à 3 500 en 2019. La baisse s'est particulièrement accélérée entre 2008 et 2013. Mais depuis, ça stagne en France. On a même dégringolé dans le classement européen. On est passé du 7e au 14e rang. Alors la Cour des comptes cible une doctrine française centrée par défaut, dit-elle, sur le comportement des usagers, notamment sur la question de la vitesse et des radars. Un rapport qui fait très plaisir à Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Il avait l'impression qu'il prêchait dans le vide et bien désormais il est à la Cour des comptes avec lui.
Tous les ans, depuis 9 ans maintenant, je passe pour un imbécile lorsque je dis qu'il est temps de changer de modèle de sécurité routière parce que les radars, pour reprendre l'expression, et là je modifie un peu, ça flash. Mais ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que très clairement, il n'y a plus de baisse structurelle des chiffres de la sécurité routière parce qu'on a poussé le bouchon trop loin.
Alors, pour défendre les radars, pour savoir s'ils sont encore la solution, Laurent, toi, toujours dans le camp des radars.
Ah bah moi, je pense que les radars sont utiles. Je pense même qu'il n'y a que la peur du gendarme qui fait un peu réfléchir les gens sur la route. Pas tous les gens, hein, la majorité des gens conduisent correctement, mais les chauffards, les vrais, oui, il n'y a que la peur du gendarme qui les fait lever le pied. Et en tout cas, faire attention. Mais et quand même, quand j'ai lu ce rapport, je me suis dit, mais de quoi elle se mêle, la Cour des comptes ? Elle est devenue donc spécialiste de la sécurité routière, la Cour des comptes. Alors, puisqu'elle veut des comptes et des chiffres, je vais vous en donner quelques-uns. Est-ce que vous savez combien coûte l'insécurité routière chaque année ? Est-ce que vous avez une idée du chiffre ?
Non.
44 milliards d'euros. Je peux même vous donner des précisions. Le coût des blessés qui sont hospitalisés, c'est 18 milliards d'euros. Le coût des blessés légers, c'est 4 milliards d'euros de plus. Et vous ajoutez le coût des réparations, le coût des assurances, etc. 44 milliards. 44 milliards. Et on ne dépense chaque année que 3,5 milliards d'euros pour la sécurité routière. Alors on me dit, les radars, c'est pas fait pour faire baisser le nombre d'accidents sur la route. C'est fait pour prendre l'argent du contribuable. Vous savez combien ça rapporte, les radars ? 700 millions. 44 milliards d'un côté, 700 millions de l'autre. Donc, où est-ce que l'État s'enrichit avec les radars ? C'est une blague. Et enfin, dernier point, est-ce que les radars ont fait baisser les accidents sur la route ? Mais la réponse est oui, les radars ont été mis en place en 2003. Autour des radars, l'accidentologie a baissé de 66%. Il y a 66% d'accidents en moins là où il y a des radars. Et je peux même aller plus loin. Entre 2003 et aujourd'hui, on a à peu près épargné 40 000 vies sur la route. Alors évidemment, les radars ne sont pas les seuls responsables. Mais les radars, ajoutés à la qualité des infrastructures, à tous les efforts qu'on a fait sur les voitures, etc. Bah, tout ça mis bout à bout, oui, on a fait baisser l'insécurité routière. Mais supprimer les radars demain et vous refaites de la route une jungle. Voilà, c'est quand même pas très compliqué à comprendre.
Emmanuel, tu es comme Pierre Chasseret, tu te sens épaulé par la Cour des comptes.
Non mais parce que la Cour des comptes dit ce que je n'ai pas arrêté dans les multiples émissions qu'on a fait sur le sujet, c'est-à-dire que il faut arrêter cette logique du tout répressif. C'est ce que dit la Cour des comptes. Alors quand Laurent, je comprends bien que ça le gêne, quand la Cour des comptes dit le contraire de ce qu'il pense, de quoi elle se mêle, etc. D'abord, je te rappelle que la Cour des comptes, son métier, c'est d'évaluer l'efficacité des politiques publiques. Voilà, donc la politique des radars, effectivement, et la sécurité routière, ça fait partie de ces missions d'évaluation.
Je me rends. La Cour des comptes, elle dit en gros, depuis une dizaine d'années, les radars ne font plus baisser significativement le nombre de morts sur la route. Elle a juste oublié un petit détail, toi qui es un spécialiste des études et de la qualité des études, elle a oublié un détail, elle n'a pas pris en compte l'augmentation du trafic depuis 10 ans. Donc elle rapporte le nombre de morts aux millions d'habitants, mais elle a oublié de rentrer comme facteur aggravant l'augmentation du trafic routier.
Comme
je ferme la parenthèse.
Non, comme toutes les statistiques sur la route, sur les 80 km/h, etc.
Oui, là, tu ne
pourras pas me reprocher de ne pas être un éminent critique de toutes les statistiques.
Donc, tu devrais prendre le rapport de la Cour des comptes avec des pincettes.
Pas du tout, Laurent, parce qu'il y a un point que tu ne peux pas tirer à la Cour des comptes, c'est que le trafic, il augmente de façon absolument continue et régulière depuis des années, voire des décennies, et que l'inversion de tendance, elle est réelle. Donc, Il ne s'agit, alors évidemment pas, ne caricaturons pas, il ne s'agit évidemment pas de dire que les radars ne servent à rien. Ce qui est critiqué par la Cour des comptes, et ce que je critique depuis longtemps, c'est cette idée que on est dans la politique du tout répressif, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe que de sanctionner la vitesse, notamment à travers les radars. Or, je rappelle que la vitesse n'est responsable que de 27% des morts.
Un tiers.
Sur les routes,
un tiers.
Et que les graves excès de vitesse, c'est ça qui est responsable des accidents. Or, si vous prenez la moitié des excès de vitesse, ils se situent entre 1 et 5 km/h. Donc, bien évidemment qu'il faut lutter contre la vitesse. Ce que dit juste la Cour des comptes, c'est qu'on est au bout de cette logique totalement répressive et qu'il faut aller vers d'autres politiques qui sont des politiques. Et d'ailleurs, ce que dit la Cour des comptes, ce qui est le bon sens même, inspirez-vous de ce qui marche à l'étranger et qu'on ne fait pas en matière d'entretien des routes, en matière d'organisation des infrastructures, en matière d'éducation. Alors, je vous donne plein d'exemples de ce qui marche à l'étranger et qu'on ne fait pas en France. Des passages piétons en diagonale, par exemple. Il y a plein de pays dans lesquels, maintenant, les passages piétons sont en diagonale et c'est effectivement plus efficace pour éviter les accidents. Les dispositifs anti-contresens sur les autoroutes, les séparateurs sur les routes à double sens, les autoroutes gratuites. Ça, c'est quelque... Alors là, c'est quelque... Mais on va pas... C'est pas notre sujet.
Non, merci de balancer.
Les aires pour les téléphones et les SMS, les feux impossibles à masquer. Moi, j'ai pris 4 points un jour de retrait parce que j'ai grillé un feu rouge. Pourquoi j'ai grillé un feu rouge? Parce qu'il y avait un car devant le feu et que je n'allais pas attendre des heures que le car parte pour pouvoir passer. Et donc, je suis passé malencontreusement au feu rouge et je me suis fait griller par la police. Des feux impossibles à masquer, ça marche à l'étranger. En matière d'équipement, rendre obligatoires les caméras de recul en ville, les infrastructures adaptées à tous les modes de transport, les stations
tu
de gonflage des pneus
en
libre-service,
etc. C'est ce que dit la Cour des comptes.
Mais bien sûr que oui, il y a plein d'autres choses à faire en matière d'éducation et d'aménagement des routes, notamment pour diminuer
l'accident. Est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui nous écoutent que tu es contre la suppression des radars?
Mais bien évidemment que je suis.
Voilà, c'est tout ce que je voulais t'entendre dire.
Mais la Cour des comptes te dit pas qu'il faut supprimer les radars. Personne te dit et je ne t'ai jamais dit qu'il fallait supprimer les radars.
Très
je
bien.
T'ai dit que considérer que la prévention routière, l'alpha et l'oméga, c'était
la
de toujours multiplier les radars.
Tu sais quoi, on va pas être loin d'être du même avis alors.
Ah ben bah, il est que 13h11.
Si tu es d'accord pour regarder les radars et si tu es d'accord pour dire que l'insécurité routière est multifactorielle et donc il faut lui apporter des solutions radicales différentes, il y a plein de solutions possibles. Mais on va pas loin. On va peut-être être d'accord.
Du coup, on va dire à demain.
Non, moi, depuis qu'on parle de sujet, je n'ai jamais varié d'un iota.
C'est vrai, ça.
Non, Laure, fais l'arbitre, puisque
mais
c'est
ton boulot.
Tu as expliqué quand même que les radars, ça servait à rien. Arrête.
Je te le dis.
Ah, voilà. C'est moi qui suis constant sur ce sujet depuis le début.
T'as pas dit que les radars, ça servait à rien?
Non.
Non, c'est les radars mobiles.
Ah oui, ça veut dire que c'est un scandale.
Nuance.
C'est pas la même chose. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
C'est là quand même.
Merci, monsieur Choupeau aussi.
La comptabilité de ce qu'on fait. Véritablement venu dans cette émission. On nous fait déjà tellement dire des choses qu'on n'a pas dit. Non, mais c'est pas vrai, ça.
Je vous rappelle notre question. Les radars sont-ils encore la solution? On attend vos messages, vos témoignages et votre avis sur cette question sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Elle est avec Benjamin qui nous appelle depuis le Maine-et-Loire, qui est technicien informatique. Bonjour, Benjamin.
Bonjour à tous.
Toi, tu es plutôt côté Laurent Neumann. Tu veux défendre les radars?
Pas vraiment. Faudrait réduire les radars, mais à côté, augmenter la part d'humain sur le bord des routes.
Le vrai gendarme.
Ah oui, le vrai gendarme.
Ah oui.
Là, pour le coup, oui.
Parce que le radar, lui, il ne s'est pas engueulé. Le gendarme, il sera engueulé le conducteur qui a fait une bêtise.
Tu crois que c'est plus efficace d'avoir un contact direct? Vraiment, vous avez roulé à telle vitesse, c'était dangereux?
Après la vitesse, je pense pas que la bon, il y a certes la vitesse, mais je pense qu'il y a d'autres comportements aussi qui seraient plus à verbaliser, notamment le téléphone au volant, par exemple.
Ouais.
Et ça, le radar autoroutier, sait pas faire.
Oui, il sait pas voir les comportements, et c'est bien tout ce que dit la Cour des comptes, qu'il faut maintenant se concentrer sur les comportements à risque plus que sur la vitesse elle-même.
Ouais, les comportements à risque. L'État doit faire son boulot aussi en matière de sécurisation des routes, des infrastructures.
Oui, qu'est-ce qu'attend par exemple l'État pour imposer aux constructeurs un système d'éthylotest pour empêcher la voiture de démarrer? C'est quand même pas compliqué. On sait le faire.
Oui, Benjamin.
Les éthylotests anti-démarrage, ça existe déjà dans les autocars. Pourquoi pas dans les voitures ou
exactement.
Dans les camions?
Voilà, exactement. Exactement. Mais si tu veux, c'est pas plein de solutions à l'exclusion des radars.
Non.
Les radars sont indispensables.
Les
éthylotests,
modèles, tu dirais oui pour ne pas démarrer la voiture ?
Alors oui, mais d'après ce que j'ai pu voir sur des tests qui avaient été faits, il faudrait trouver un moyen que celui qui souffle soit bien celui qui conduise.
Ah oui.
Bonne remarque.
Non,
c'est vrai.
Avec une empreinte ou je sais pas.
Alors je sais pas. J'ai peut-être un système de reconnaissance. Ça après, je pense que ce sera possible. Ce sera possible.
Faire payer ton souffle.
De toute façon.
10 euros, je souffle dans ton. Non, je lance un business. Pardon. Non, mais je ne sais pas.
Pour 10 euros, pourquoi pas, si ça permet.
Je souffle.
Effectivement. Bon, mais non, mais je pense qu'il y a d'autres. Moi, je crois profondément que l'avenir. Je vais vous le dire. Enfin bon, sans aller vers la voiture totalement autonome. Moi, je pense qu'on a des voitures. Moi, mon rêve, d'ailleurs, mon rêve de conducteur, c'est d'avoir une voiture qui s'adapte automatiquement à la vitesse limitée. Là où tu es.
Tu veux plus conduire, toi.
C'est ça. Moi, je
alors que Laurent, lui, veut toujours conduire.
C'est le paradoxe, c'est que Laurent, il aime conduire.
Ah, j'adore conduire.
Moi, ça ne me plaît pas. Mais je pense qu'effectivement, il y a des tas de choses à faire. Alors, je suis d'accord sur l'idée des gendarmes. On n'en voit pas assez au bord des routes. Mais à l'étranger, il n'y en a pas plus non plus au bord des routes qu'en France, parce que ça coûte très cher de mobiliser autant de forces de l'ordre. Donc, vous avez raison, mais je ne crois pas que ce soit une solution raisonnable.
Chez nous, on reconnaît que c'est un sport national quand même de chercher à contourner les règles, de façon générale, pas seulement sur la route. Ouais. Et reconnaît, si tu fais un peu de route, que tu croises sur la route des automobilistes dont le comportement absolument indéfendable. Voilà.
Merci Benjamin d'être venu débattre avec nous. On est avec Benoît qui nous appelle de Saint-Laurent-de-Périgat.
Benoît.
Toi, tu es chauffeur poids lourd. Salut,
Benoît. Benoît, dès qu'il y a un sujet de sécurité routière, et c'est notre expert maintenant.
Bah, presque.
Ouais.
Toi, tu voudrais des vraies formations à la conduite.
Oui, parce que moi, j'ai pas passé le permis normalement. J'ai un BEP CSTR, conduite et service dans le transport routier. Donc, ça veut dire qu'en sortant de troisième, j'ai directement fait mon BEP.
Ah oui.
Donc, j'ai passé mon permis voiture, j'avais même pas 16 ans, qui était valide après à 18 ans, et j'ai passé mes poids lourds. Et du coup, sur 2 ans, t'as une vraie formation où tu vois de la sécurité routière, tu vois les accidents. La première semaine, on a eu 1 heure de cours sur l'accidentologie déjà. Donc, t'as 15 ans, tu te bouffes 1 heure de vidéos d'accidents de la route.
Ouais.
Donc, je peux dire qu'après, quand tu passes derrière un volant, t'as pas le même comportement. Donc, déjà, il y a ça. Ma femme, elle a passé le permis longtemps après moi. Et du coup, on a fait une conduite supervisée. Donc, c'est la conduite accompagnée pour les adultes. Et quand je vois ce qu'ils lui ont appris à l'auto-école comparé à moi, ce que j'ai appris dans mon BEP, mais c'est du tout au tout, quoi. En France, on apprend à passer un permis de conduire, on n'apprend pas à conduire, quoi.
Et c'est vrai qu'il y a énormément, là, au permis, de questions techniques, ne serait-ce que de comment fonctionne le véhicule. Mais bon, il y a quand même des heures de cours, mais on passe pas encore 1 heure de vidéo.
Mais je me souviens, il y a quelques mois, dans un débat autour des radars, c'était sur les radars embarqués, si ma mémoire est bonne, j'avais fait la suggestion, mais même Emmanuel a dit, mais c'est une très bonne idée, je suis pour, plutôt que d'emmener les gens dans des stages de récupération de points où ils n'apprennent strictement rien, emmenez-les dans un hôpital où il y a des grands blessés de la route pour voir dans quel état les gens sont brisés. Emmenez-les voir dans le couloir les familles qui pleurent toutes les larmes de leur corps parce que tout à coup il y a un dingue qui a pas tenu la vitesse autorisée et qui a fauché 2 vies, 3 vies, 4 vies sur la route. Allez voir.
Ça, ce serait bien pour après le premier stage. Parce qu'en fait, il y a des gens qui font des stages.
Non, c'est trop tard.
Ah, ouais.
C'est beaucoup trop tard.
Oui, on peut dire que c'est trop tard.
Tu penses que c'est avec le permis, oui.
C'est même avant le permis, moi, je dirais. Parce que moi, du coup, les vidéos, on les a bouffées à 15 ans.
Ouais.
En premier rang de l'après-midi, tu sors de manger, tu te tapes ça derrière. Bah, franchement, faut avoir l'estomac bien, bien accroché. Et derrière, ça, parce qu'une fois que t'as fait l'infraction, une fois que tu t'es fait choper à 180, là, t'as eu le radar au bout, avec moins de chance, t'aurais une voiture avec une famille dedans au bout. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop tard faut le faire avant. Quand j'étais gamin, en primaire, on a passé le code vélo. Enfin, le permis vélo, même.
Oui, j'avais passé ça, moi aussi.
Donc, déjà, parce qu'un gamin, il attend pas d'avoir 18 ans et le permis pour faire du vélo. Enfin, en ville, je sais pas, mais nous, en campagne, les gamins, nous, quand on était petits, on allait à la piscine en vélo, on allait au foot en vélo. C'était notre moyen de locomotion quand on était gamin. Donc, je sais pas maintenant en ville comment c'est, mais le gamin, déjà, il a une connaissance du code de la route. Forcément, s'il a vu un truc à l'école, quand papa ou maman va prendre le téléphone ou quoi, « Hé, papa, maman, le gendarme, il a dit à l'école que machin. »
C'est comme aujourd'hui, avec le recyclage, si tu mets pas dans la bonne poubelle, c'est les enfants qui te...
Non, mais je crois qu'on dit pas assez aux gens qu'une voiture, c'est une arme par destination. Donc tu peux pas faire n'importe quoi, tout simplement. Et si tu te mets pas seulement toi en danger, tu mets les autres en danger.
Tu vois, on parle de prévention, etc. Regarde, par exemple... les efforts d'imagination qui sont faits par les pubs dans tous les pays du monde. Je sais pas si t'as vu les pubs françaises pour la prévention routière, c'est effectivement des images dramatiques. Etc. Est-ce que tu as vu cette pub belge du gars qui fait fortune en pariant sur les accidents des autres ? Mais elle est.
Il faut comprendre le second degré.
Alors il faut oui c'est vrai. Le second degré c'est une spécialité belge. Je suis pas sûr que ce soit une spécialité française. Mais c'est vrai qu'il y a des façons de marquer les. Et là encore ça fait partie de la prévention, de l'éducation.
On va en parler dans un instant avec notre invité Laurent Carnier, directeur de recherche à l'université Gustave Eiffel, qui était l'ancien IFSTAR, c'est dur à dire, Institut français des sciences et technologies des transports. Un grand merci à Benjamin et Benoît d'être venus débattre avec nous. On vous attend au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann le chiffre.
RMC, midi 14h.
Neumann le chiffre.
Neumann le chiffre, on est ensemble jusqu'à 14h. On parle des radars et sécurité routière. Est-ce que les radars sont encore la solution ? Il semble qu'il y ait un palier depuis 2013 dans la baisse des morts en France. On n'arrive pas à faire baisser le nombre des morts plus que ce qu'il n'est aujourd'hui. Pour Laurent Neumann, la peur du gendarme reste le meilleur des leviers. Pour Neumann le chiffre, il faut arrêter la logique de la répression, du tout répressif et de s'axer sur la vitesse uniquement. Lisa Marie, quelle est la première tendance ?
Pour le moment, 75% à répondre non. Comme Emmanuel Le Chypre, pour vous, les radars ne sont plus la solution.
Bon, voyons, on va arrêter les radars, on va arrêter les limitations de vitesse et vous allez voir, mécaniquement, la sécurité routière, ça allait beaucoup mieux.
Alors, on n'a pas dit qu'on allait arrêter les radars. C'est peut-être arrêter de le développer, mais pas enlever ceux qui sont déjà en place. On est avec Laurent Carnis. Bonjour, directeur de recherche à l'université Gustave Eiffel. Quand vous avez vu le rapport de la Cour des comptes, ça vous a surpris ou finalement, vous dites, enfin, on va pouvoir multiplier les facteurs pour faire plus de sécurité routière ?
Tout d'abord, bonjour à tous. Non, je n'ai pas été surpris des énoncés du rapport de la Cour. Moi, j'en suis satisfait à plusieurs points, hein, parce que effectivement, il y a une lecture particulière qui est faite de ce rapport, qui serait de dire les radars, effectivement, comme l'intitulé de votre sujet, ne seraient plus la solution. Or, la Cour, dans son rapport, rappelle que ça a été une politique efficace et à coût maîtrisé. Le deuxième point, la Cour mentionne également les effets attendus du 80 km/h, qui ont été très contestés, très débattus, et elle considère que ça a été une mesure également efficace. Et le troisième point, mentionné par la Cour, c'est le fait que la dégradation des radars pendant la période des Gilets jaunes a conduit à une dégradation des performances de sécurité routière. Donc à votre réponse, oui, les radars restent un outil fort utile et fort efficace pour réduire l'accidentalité routière, effectivement.
Mais efficace, mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose ?
Je pense que l'image qui consiste à dire qu'on n'a fait qu'une politique du tout radar est une vision assez erronée des choses. L'État et les collectivités investissent dans l'entretien du réseau routier, alors peut-être pas suffisamment, mais il y a quand même des efforts considérables qui sont entrepris, hein, c'est des milliards d'euros. Il y a des mesures éducatives, des campagnes de communication, de formation. Donc il y a un grand nombre de
Alors sur quoi il faut appuyer aujourd'hui ?
Comment ?
Sur quoi il faut appuyer aujourd'hui ? Sur quel pont on n'appuie pas encore assez ?
Eh bien, la Cour évoque aussi des pistes d'action très, très intéressantes. La première, c'est ce qu'elle appelle le système sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on développe peut-être plus une approche systémique, c'est-à-dire qu'ils prennent en considération l'interaction des différents facteurs de risque, hein, les véhicules. Hein, il va y avoir l'arrivée du véhicule autonome et la meilleure prise en considération des nouvelles formes de mobilité. Hein, je pense qu'aux auditeurs ont conscience du développement des trottinettes, des choses de ce type. Bien évidemment, l'entretien des infrastructures routières, mais pas simplement que l'entretien. Hein. Il s'agit de réfléchir à leur conception, une route qu'on appelle qui pardonne hein, lorsque le conducteur fait des erreurs, une structure qui prenne en considération les usagers vulnérables, je pense notamment en milieu urbain. Donc, c'est vraiment une politique d'aménagement hein, à laquelle on s'inscrit. Bien évidemment, toujours des efforts en matière d'orientation vers les usagers, mais également des actions qui doivent être menées sur la prise en charge des victimes. C'est tout ce qu'on appelle le post-crash, le post-accident. Mais également, un élément qui est avancé par la Cour, et je comprend pas qu'on mette pas suffisamment l'action et l'accent dessus, c'est repenser le système de gouvernance de sécurité routière qui consiste à mieux intégrer les parties prenantes à la conception de la politique de sécurité routière, mais également à l'attribution finalement d'engagement. Hein,
alors ça veut dire quoi? Il faut intégrer qui dans la politique de sécurité routière, dans la gouvernance?
Peut-être mieux intégrer les collectivités territoriales, hein, qui doivent s'engager peut-être sur des objectifs, prendre en considération bien sûr les usagers, mais aussi les associations de victimes qui ont des positions et qui ont également des idées. Peut-être mieux intégrer aussi les enseignements de la recherche.
Je me permets de vous interrompre un instant. Il y a eu un débat absolument interminable autour des 80 km/h, notamment sur les routes sans séparateur central. On nous explique qu'en Suède, plutôt que de faire baisser la vitesse à 80 km/h, on a tout simplement eu l'idée de mettre des séparateurs centraux. Mais disons la vérité, les régions, les collectivités locales n'ont pas voulu dépenser cet argent, et lorsque l'État a dit bah, très bien, vous voulez pas dépenser cet argent, on va mettre la vitesse à 80 km/h, tout le monde est monté au créneau en disant non, c'est attentatoire à nos libertés, 80 km/h. Mais il fallait que les collectivités locales dépense l'argent pour faire les séparateurs centraux sur ces routes dangereuses. La Suède l'a fait, la France ne le fait pas, et du coup, quand on baisse la vitesse, tout le monde monte au créneau. Mais il faut choisir dans la vie. Ou on dépense de l'argent pour protéger des vies, ou alors on agit avec la coercition, on baisse la vitesse. Mais il faut choisir.
Vous pointez ici, Laurent, un élément essentiel, c'est la question du coût. Effectivement, il y a des arbitrages qui sont réalisés. Effectivement, une solution pourrait être de considérer que si on désire relever les limitations de vitesse, eh bien il faut faire des investissements en termes d'infrastructure de manière à ce que le risque supplémentaire soit pris en considération. Le deuxième point que vous soulevez, c'est celui toujours de l'exemple par l'international. Vous soulevez la Suède, mais il faut aussi repositionner le problème de la Suède. La Suède, c'est un pays assez grand, bien évidemment, mais dont la population est extrêmement concentrée dans des métropoles urbaines. Ce qui veut dire que les enjeux de sécurité routière ne se posent pas de la même manière lorsqu'on a 1 million de kilomètres de voies, comme c'est le cas en France. Et le deuxième point que vous avez soulevé par rapport aux séparateurs, il ne faut pas oublier que ce sont finalement des lignes, finalement des câbles tendus qui permettent de refaire revenir finalement les véhicules dans le bon chemin pour éviter les collisions frontales. Mais là aussi, ça concerne un nombre de kilomètres finalement assez réduit. Mais lorsqu'il s'agit de sécuriser les usagers vulnérables en milieu urbain, par exemple, la Suède n'hésite pas, là aussi, à jouer sur les limitations de vitesse. Donc, il faut toujours être, je dirais, mesure gardée aussi.
Je crois, pardonnez-moi, qu'il y a un élément qu'on prend pas assez souvent en compte. On dépense chaque année, je l'ai dit tout à l'heure, environ 3,5 milliards d'euros pour la sécurité routière. Mais l'insécurité routière nous coûte 44 milliards. Donc c'est 3,5 milliards qu'on dépense. C'est une forme d'investissement. C'est même pas une dépense, c'est un investissement. Et donc il faut l'avoir en tête. Encore une fois, le coût, ne serait-ce que pour la sécurité sociale, des accidents de la route, mais c'est colossal. On parle tout le temps des morts. On juge la qualité de la sécurité routière au nombre de morts. C'est vrai que depuis 25 ans, pour des tas de raisons, d'ailleurs, les radars en font partie, le nombre de morts a considérablement baissé. Mais j'ai sous les yeux le nombre de blessés. 21 000 blessés hospitalisés, 48 000 blessés légers. Bah, vous faites l'addition de tout ça et vous imaginez ce que ça coûte rien qu'à la sécu. Je parle même pas de la réparation du matériel endommagé. Je parle même pas des coûts en matière d'assurance. Juste pour la sécurité sociale. Mais ces 3 milliards d'euros dépensés, c'est rien à côté de ce que ça coûte. Donc les radars, la question des radars, moi je l'ai lu, enfin j'ai lu le résumé du rapport, opposer les radars à toute une série de mesures, c'est débile. Les radars, c'est un des aspects de la sécurité routière. Exactement. Mais laisser penser aux gens qu'on pourrait se passer des radars, qu'on pourrait se passer de la peur du gendarme, mais c'est juste mentir aux gens. Et les gens qui sont très attachés à l'utilisation des deniers publics, ou qui en ont marre d'ailleurs, qui ont mettre des radars et qu'on leur pique leur argent. Mais encore une fois, c'est 700 millions d'euros les amendes pour les radars. 700 millions d'euros, c'est que dalle, c'est rien.
Oui, Laurent Carnis.
Vous avez tout à fait raison d'insister, je vais aller dans votre sens. Le programme radar, je dirais que c'est une très bonne affaire, une très bonne mesure de politique publique. Pourquoi ? Puisque effectivement, vous l'avez évoqué, c'est à peu près 200 à 250 millions annuels. qu'on peut voir effectivement non pas comme une dépense, mais comme un investissement. Vous avez tout à fait raison. Mais le retour, c'est même pas le retour en termes d'amende, c'est le retour par rapport au nombre de vies sauvées. Avec des collègues, avec un collègue, on a mené une recherche. On estime au minimum entre 15 et 18 000 vies sauvées, plus de 100 000 blessés évités cumulés sur les 10 premières années.
Oui, on a l'impression, Laurent Carnis,
c'est considérable. On est tout à fait d'accord sur ce point.
Oui, sauf que là, on a l'impression que ce que vous proposez, c'est assez minime finalement. Vous avez l'air de vous satisfaire du niveau d'investissement. Vous dites que on dépense pour rénover nos routes. Or, nos routes n'ont jamais été aussi mal entretenues. C'est-à-dire, quand vous regardez la qualité des infrastructures routières en France, dans tous les classements internationaux, elles s'effondrent. Sur la prévention, on fait rien. Encore une fois, toutes les bonnes idées à l'étranger, il y en a des dizaines, il y en a plein qu'on ne met pas en place. Alors, vous voulez qu'on discute, etc. Moi, je veux bien, mais franchement, ou alors est-ce qu'on considère qu'il y a un nombre incompressible. Est-ce qu'on peut arriver un jour à zéro mort, par exemple? Non. Est-ce qu'il y a un nombre incompressible de morts sur la route?
Le risque routier, il ne peut pas être nul, mais c'est vrai que c'est la politique du vision zéro. Vision zéro, c'est l'optique de sécuriser, d'ultra-sécuriser nos voies. Parce que, comme l'a dit votre collègue, derrière, ce sont des vies, ce ne sont pas simplement que des statistiques. Et là aussi, je suis d'accord avec votre collègue, on focalise sur le tuer. Alors, effectivement, les progrès de cette politique publique font qu'on a moins de 3000 tués aujourd'hui. On a une situation un petit peu particulière avec la pandémie, bien évidemment. C'est effectivement un nombre considérable de victimes hospitalisées, d'une part, mais aussi de victimes qui auront des séquelles. Donc, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Ensuite, quand vous dites qu'on ne fait rien, non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas affirmer de manière aussi gratuite que l'on ne fait rien. Il y a des progrès, il y a des choses qui sont faites. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit faire que du radar. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui doivent être faites, notamment, je pense, en matière d'alcoolémie, en matière d'agencement des villes et de protection des usagers vulnérables, notamment, par exemple, les zones 30 ou des zones d'échange, des choses de ce type. Ce sont sans doute des choses à améliorer en matière de formation des conducteurs, etc., de la gestion de risques spécifiques comme les risques liés aux jeunes usagers ou aux personnes plus âgées, etc. Simplement aller voir sur le site du Comité national de la sécurité routière, il y a des propositions.
Il reste beaucoup de choses à faire qui n'ont pas été mises en place encore en France. Merci beaucoup Laurent Carnis d'avoir été avec nous, directeur de recherche à l'Université Gustave Eiffel. On vous attend au 32-16 pour parler de routes, de sécurité routière. Est-ce que vous avez l'impression que les radars sont encore la solution ou est-ce qu'il faut explorer d'autres pistes? Peut-être que vous avez même des idées. On vous attend sur RMC, à tout de suite.
RMC midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Vous écoutez
RMC.
RMC midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. On parle sécurité routière. Les radars sont-ils encore la solution face à une baisse de la mortalité sur les routes qui stagne? Pour Laurent Neumann, c'est oui, la peur du gendarme reste le meilleur des leviers. Pour Emmanuel Le Chypre, non, on est au bout de la logique de répression. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec David, qui est commercial, qui nous appelle depuis le Val d'Oise. Bonjour David.
Bonjour.
Toi, tu as l'impression qu'il n'y a pas de formule magique, ce qui est sûr.
Après, c'est compliqué d'avoir un avis tranché sur la question, mais si, j'avais quelque chose à dire, mais juste avant de dire cette chose-là, il y a deux choses que je voudrais dire. C'est que aujourd'hui, quand on allume la télé, on regarde une émission télévisuelle, enfin magazine télévisuel ou radio, on a des polémiques sur, on va dire, ouais, les gens roulent vite, on a des records, 160, 180, alors on équipe la gendarmerie, on achète des Subaru, des Mégane RS et tout ce qu'on veut. Mais moi, j'ai juste une question à poser. Aujourd'hui, avant de venir à cette question, j'ai oublié de signaler quelque chose, c'est que la voiture, à la base, c'est un moyen de locomotion.
Ouais,
c'est-à-dire
qu'on
va d'un point A à un point B, d'accord? Moi, j'ai juste une question à poser. Pourquoi on fait des voitures qui roulent à 200 ou 220 km/h, enfin, ou X, le chiffre, alors que la vitesse maximum en France, elle est de 130?
Tu as vu qu'il y a déjà des constructeurs qui ont annoncé qu'ils ne feraient plus de voitures qui roulent jusqu'à 250 et qu'ils allaient les brider, hein?
Non, ça, j'ai pas.
Ça existe déjà, c'est le cas de Volvo de mémoire, et je me demande si c'est Renault ou c'est Peugeot qui a annoncé ça. De tête, tu sais plus.
Mais on a fait une émission. La réalité, c'est que la voiture, c'est bien plus que ça. La voiture, c'est pas seulement un moyen de transport. Mais oui, la voiture.
C'est une expérience.
C'est le symbole de la liberté pour énormément de gens.
C'est la première fois que t'as ton permis.
Bah non, mais c'est beaucoup plus que ça. Si ça n'était qu'un moyen de transport totalement dépassionné, oui, mais c'est beaucoup plus que ça, malheureusement.
Laurent, oui, mais aujourd'hui. Oui, pardon. Excuse-moi.
Non, mais Laurent va te dire oui, toi, qui adore la voiture.
Ah bah oui, oui, évidemment que c'est plus que ça.
Mais moi aussi aujourd'hui j'aime bien la voiture. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que on a envie de se faire plaisir, on a une belle voiture. Ok, ça je peux l'entendre, je peux le comprendre. Maintenant, on ouvre des polémiques et on entend des choses. C'est qu'aujourd'hui, on fait rouler des voitures à des chiffres X. Et comme vous le disiez tout à l'heure dans votre émission, derrière tout ça, dès qu'on pousse la porte de l'hôpital, il y a des familles brisées. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? C'est le plaisir. Si on a vraiment envie de se faire plaisir, enfin, il y a des circuits d'automobile, il y a des choses en place aujourd'hui qu'on peut faire pour vivre de cette passion-là. Si on, enfin,
je sais pas si il faut pas confondre la route avec la course automobile, et si on veut faire de la vitesse, on peut aller sur un circuit. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre. On est avec Pierre Chasseret. On ne peut pas finir cette émission sans Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Pierre, est-ce que vous travaillez pour la Cour des comptes en sous-main?
Écoutez, franchement, ça se posait des questions, mais non. Par contre, on a été auditionnés. C'est vrai qu'on est arrivé avec un vrai boulot de fond, et que pour une fois, on nous avait pas pris pour des charlots. C'est-à-dire que quand j'entends le témoignage de David juste avant, eh bien, je me dis, David, il est le reflet un petit peu de cette sécurité routière qui ne marche pas en France. Pourquoi ? Parce que quand il a parlé sécurité, il a parlé quoi ? Vitesse.
Vitesse.
Uniquement vitesse. Et en fait, on oublie que derrière ces débats, il faut dépassionner, parce qu'évidemment, il a totalement raison. Les routes, c'est pas un circuit de Grand Prix. On n'est pas là pour battre des records de vitesse. Bien sûr, il a tout à fait raison. Mais derrière ça, eh bien, quand on ne parle que de vitesse, on ne parle pas des autres causes d'accident. Et ça devient catastrophique.
Mais c'est route, pas vrai, Pierre. Mais Pierre, mais c'est pas vrai. On fait des campagnes sans arrêt pour dire le téléphone au volant, l'alcool au volant, la drogue au volant.
Attends, c'est pas des campagnes qu'il faut faire, Laurent. Au bout d'un moment, il faut agir. Regardez, aujourd'hui, qui, à part moi, chez 40 millions d'automobilistes, est capable de vous dire que 16% des cas d'accidents mortels aujourd'hui sur les routes, ce sont sur des refus de priorité. 16% des cas d'accidents mortels sur les routes, refus de priorité. Et ça, quand même, c'est pas une paille. 16% des accidents mortels. Est-ce qu'on en parle? Jamais. Donc aujourd'hui,
oui, mais ce qui est gênant, Pierre, ouais. ce qui me gêne moi dans tous ces débats, et j'ai presque réussi à trouver un point d'accord avec Emmanuel, donc j'essaye de te convaincre aussi. Ne laissons pas croire que la vitesse n'a aucune importance. C'est pas est-ce que la vitesse est grave ou pas grave. La vitesse, c'est grave. C'est un facteur aggravant.
Le problème, c'est que c'est donc, tellement grave qu'on ne s'est battu que contre ça.
Mais c'est pas vrai.
Mais bien sûr que si.
Disons qu'il y a plusieurs facteurs, mais ne faisons pas croire que la vitesse, ça ne compte pas. Que donc par ricochet, les radars, il vaudrait mieux s'en séparer, et que la peur du gendarme n'est pas un facteur utile à la sécurité routière. Laurent, bien sûr que c'est utile.
Laurent, attention, ton jour de gloire est arrivé. Laurent, tu as raison.
Ah, merci.
Tu as raison sur un point. C'est qu'évidemment, bien sûr, les vitesses sont totalement délirantes, excessives, et bien tout ça, il faut y mettre fin, et c'est pas possible, parce que c'est pas sécuritaire, et ça met en danger la vie des autres. Et ça, c'est anormal. En revanche, Laurent, attention, le système français, c'est quoi ? C'est le seul pays européen. On est les seuls, c'est nous les champions, on est les meilleurs, comme d'habitude. C'est le seul pays européen qui punit de retrait de points et d'amende les petits excès de vitesse involontaires. 1 ou 2 km/h au-dessus, eh ben, bang, on se prend une amende et un retrait de points. Ça n'a aucun sens en termes de sécurité, aucun. Et pendant ce temps-là, ça met tout le monde dans le même panier. Celui qui a pas fait gaffe et qui se retrouve un petit peu au-dessus en bas d'une descente. Et puis celui qui roule n'importe comment en faisant fi de toutes les règles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le modèle de sécurité routière qu'on doit inventer, c'est un modèle auquel tout le monde souscrit. Pas un modèle où il y a plus de derrière. Aujourd'hui, quand on parle sécurité routière, on se dit, oh, ça y est, encore un rabat-joie qui va nous raconter n'importe quoi pour justifier des radars. C'est devenu ça. Et du coup, ben franchement, il n'y a plus l'adhésion de la population.
Mais Pierre, il y a quelque chose un chiffre que tu ne cites jamais, et j'espère que tu vas confirmer ce que je dis. 80% des conducteurs ont l'intégralité de leurs points.
Oui.
Donc ça veut dire que la grande, la majorité écrasante des conducteurs se comporte bien. Et donc notre problème, il est avec 10, 15, 20% des automobilistes, oui, pas plus.
Mais oui, Laurent, mais
comme toujours, attention. D'ailleurs. Comme attention, toujours.
Non, c'est pas vrai. Laurent, mais non, Laurent, ça, c'est une erreur. Attends, Pierre, je dois relever cette énormité statistique.
Oui, mais j'arrive.
Ah, bah voilà. C'est-à-dire que parmi les 80% de gens qui ont encore tous leurs points, il y en a combien qui ont des accidents mortels? Alors qu'ils ont tous leurs points, ceux qui meurent à des carrefours de refus de priorité, là.
Mais de la faute de ceux qui respectent pas.
Mais ils ont sans doute encore tous leurs points.
Mais Emmanuel, c'est encore pire que ça. Cette réalité statistique, en fait, voilà, on sous-entend que moi, je travaille à la Cour des comptes. Parce qu'effectivement, ces gens qui ont été brillants ont fait un rapport brillant. Mais le problème, c'est que Laurent, lui, travaille à la sécurité routière. Parce que il nous a fait un exercice de mauvaise foi phénoménal. Il a oublié, il a mis dans le même panier, il dit 80% des gens ont tous leurs points. Laurent, ça veut pas dire qu'un jour, on s'est pas fait prendre au moins une fois au radar. Ça veut dire que ces gens-là qui ne méritent pas qu'on leur retire des points, une amende, qui n'ont pas besoin de payer un impôt sur le droit de rouler, ces gens qui se font matraquer à coups de taxes au quotidien pour un ou deux kilomètres par
Pierre,
de plus,
Pierre,
ont 12 points.
Pierre, je vais confirmer à 100% ce que tu viens de dire. J'ai mes 12 points. Il m'est arrivé de me faire enlever des points puis de les récupérer, mais j'ai pas pleurniché sur l'existence des radars ou des limitations de vitesse.
Ah, monsieur parfait n'est pas si parfait, finalement. Il a des défauts. Merci beaucoup, Pierre Chasseret, d'avoir été avec nous.
Enfin,
délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On va aller au 32-16, voir Rémi qui nous attend. Bonjour, Rémi.
Oui, bonjour.
Toi, tu nous appelles de Beaumont, du Ventoux. C'est dans le Vaucluse. Tu roules au moins.
Le meilleur pays du monde.
Et ah, bah, écoute.
C'est beau, hein.
C'est toi, beau. Tu es 2 heures par jour sur les routes et tu as l'impression que les radars sont inefficaces.
Oui, inefficaces parce que, ça fait freiner 100 mètres avant, 100 mètres après, mais pas plus. Maintenant, on a les outils pour le
c'est
prévoir.
C'est ce que tu fais, toi ?
Non, du tout, parce que sur la route, j'ai passé, moi j'ai 37 ans, j'ai passé l'époque où j'étais de libide sur la route, donc maintenant, j'ai plus besoin de surveiller où sont les radars ou pas. Mais je le vois dans la circulation, les gens freinent avant parce qu'ils sont avertis, et dès qu'ils ont passé le radar, ils repartent. Donc
tu es favorable au radar embarqué ?
Non plus, parce que le radar embarqué, ça se fait, pour moi, c'est vraiment de la chasse aux tout petits détails, comme le disait l'auditeur d'avant. Ou le monsieur qui parle avant, c'est qu'on
Pierre va faire
les 2-3 km/h que les gens dépassent sans faire exprès.
Ah, moi, donc tu es contre les radars. Tu es contre les radars en général.
Pas en général, mais moi je le vois, il y en a la moitié qui sont placés des endroits pas dangereux, mais des endroits très fréquentés où c'est facile de dépasser la vitesse. C'est ça. Et
je peux te dire un truc, Rémi. J'ai regardé ce matin, le nombre d'accidents a baissé de 66% autour des radars. Quand il y a un radar, et par rapport à l'époque où il n'y avait pas de radar à ce même emplacement, les accidents ont baissé de 66%.
Mais tu vois bien que ces radars-là, personne
principe,
ne dit rien.
Ils ont été mis à
c'est l'acceptabilité
où
quand
on
se sert de pompe à friction.
Donc c'est plutôt pas mal.
Donc c'est le contraire de ce que dit Rémi. Rémi dit il y a beaucoup de radars à des endroits où c'est pas dangereux.
Non, il y en a quelques-uns. Il suffit de descendre dans le sud, je vous ferai visiter. Il y a plein d'endroits où ils se.
La France des radars.
Non, mais c'est ça. Et après, pour rebondir à ce qu'il disait l'auditeur d'avant, moi j'ai roulé très vite plus jeune. Et les points que j'ai perdus, ça a été sur des tout petits excès de vitesse, pardon.
Ouais, c'est
ça
n'a
jamais été sur les gros.
Bah, moi, c'est ça,
tu
c'est
as
vrai.
Changé
ça,
de comportement. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir été avec nous dans Neumann Le Chip. Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Vous êtes finalement 80% à répondre
bon.
Non, les radars ne sont plus la solution. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Le Chip?
Oh, la pilée que t'as pris aujourd'hui, toi.
Excuse-moi.
Entre l'uniforme à l'école et les radars.
Là, c'est vraiment à vaincre sans gloire. Hein.
Allez, on va aller voir nos notaires.
RMC, midi 15h, Neumann Le Chypre.
Vous avez une question, les notaires vous répondent.
Les notaires vous répondent le vendredi à 13h50. Bonjour Boris Vienne, merci d'être avec nous dans Neumann Le Chypre. On a une question pour vous de Clotilde. Clotilde, elle nous dit, mon conjoint et moi sommes paxés depuis 4 ans, on veut se marier, est-ce qu'il faut qu'on passe obligatoirement chez le notaire?
Et bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et non, c'est pas obligatoire de passer devant le notaire pour se marier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de passer devant le notaire pour savoir à quelle sauce on va être mangé juridiquement une fois qu'on sera marié. Voilà. Et le seul qui soit capable même de vous donner la totalité de l'alpha et de l'oméga du truc, c'est quand même le notaire. Et je voudrais juste poser une question. C'est que on est d'accord que le Cotil dit mon conjoint et moi. C'est-à-dire que déjà, en disant ça, elle se considère comme mariée parce qu'un conjoint, c'est forcément l'époux. Voilà.
On ne dit pas conjoint quand on n'est pas paxé. Ah oui, juridiquement.
On est partenaire.
On peut le dire comme ça quand même. Hein. Je veux dire, on n'est pas passible de poursuite.
On le dit systématiquement même, je vous dirais.
Emmanuel.
Alors, maître, qu'est-ce qu'il faut savoir impérativement quand on est paxé? Quelles sont les questions qu'on pose le plus souvent? Et peut-être, quelle est la chose la plus importante auquel on ne penserait pas forcément si on ne venait pas vous voir?
Ce qu'on va retrouver très souvent, c'est que quand on est paxé sous un régime de séparation. Et si on va se marier sans passer par le notaire, on va se retrouver marié sous un régime de communauté, qui est le régime légal qui s'applique à défaut de contrat de mariage. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait échafaudé, construit au niveau du patrimoine, avant le mariage, va avoir des règles du jeu qui vont être complètement transformées à partir du jour du mariage. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir un notaire pour comprendre quelles vont être les conséquences, juridiquement parlant, de notre mariage.
Eh oui, parce que l'intérêt, quand on passe, ce qui est obligatoire, en revanche, c'est de passer devant un notaire si on veut faire un contrat de mariage, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça. À partir du moment où on veut s'écarter du régime légal qui est celui de la communauté d'achat, eh bien, à ce moment-là, on est obligé d'aller devant le notaire qui est la personne, l'officier public qui permet de faire votre contrat de mariage.
Et c'est là, pardonnez-moi, maître, où le notaire dit aux futurs mariés, attention jeunes gens, tout va bien puisque vous allez vous marier, a priori, mais demain, ça peut aller moins bien. Et donc, du coup, il faut anticiper.
Laurent, c'est la règle d'or. Ce qu'on fait chez le notaire, c'est surtout pas pour quand ça va bien. C'est pour envisager ce qui pourrait se passer quand ça ira mal.
Voilà.
Mais je tiens quand même à préciser que le régime légal de la communauté d'achat est un super régime. Voilà. C'est 80% des époux mariés en France.
Oui, c'est ça que vous voyez comme tendance? On fait de plus en plus de contrats de mariage ou pas?
Mais il y a des remariages aussi quand même. Donc à partir du moment où
il y a des
chats
échaudés, quoi.
Très souvent, il y a des petites questions qui viennent à l'esprit des futurs remariés. Oui.
Et maître, est-ce qu'il y a des professions qui sont plus concernées que d'autres par la nécessité de bien tout mettre en ordre avant de se marier?
Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que supposons quelqu'un qui a ce qu'on appellera une profession à risque, c'est-à-dire qui est indépendant. S'ils font les plombs, eh bien la totalité des biens communs, s'il est marié sous le régime de la communauté, peuvent être engagés. Alors que s'il est marié sous le régime de la séparation, seuls ses biens personnels sont engagés. Vous voyez une petite différence à ce niveau-là.
Merci beaucoup, Boris Vienne, d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Et je voudrais juste dire à Emmanuel Le Chip que je suis vacciné. Voilà.
Ah, ça c'est bien. Mais lui aussi et nous aussi. Tout le monde est vacciné sur ce plateau avec sa double dose. On peut montrer les certificats si jamais on nous les demande. Merci, Boris Vienne, d'avoir été avec nous. Vous posez vos questions au notaire sur Direct Studio. Ils y répondent tous les vendredis. C'est la fin de Demain Le Chip pour aujourd'hui. On se retrouve lundi sur RMC, tous ensemble sur RMC Story. On vous dit à bientôt. Vous aurez à partir de la semaine prochaine vos programmes d'été. C'est l'heure de retrouver Intégral Tour avec Christophe Cessieux pour parler Tour de France.
RMC, midi 14h.
Demain Le Chiffre.